C'est l'heure de la chronique cinéma avec Louise-Véronique Sicotte. Bonjour Louise-Véronique.
Bonjour Hélène.
Vous avez vu 3 films oui. pour nous et on commence avec Rapace. On va écouter un extrait de la bande-annonce.
Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît.
Madame, vous m'entendez?
Une gamine retrouvée dans un champ.
Passionnel?
Je crois pas, ils étaient plusieurs.
C'est quoi votre journal?
Détective.
C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal.
Je pensais que ça nous rapprocherait.
J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle, elle était défigurée.
On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler.
J'ai déjà peur. Qui a fait ce film-là?
C'est le réalisateur Peter Dourounzis.
Je connais pas.
C'est son 2e long-métrage.
Ah oui?
Oui. Et bon, un film français, un thriller... N'est-ce pas?
Mm-hmm.
Donc, juste après la bande-annonce, on peut bien voir qu'il y a du suspense et des faits divers, en fait. Parce que le réalisateur s'intéresse beaucoup depuis longtemps, à la violence faite aux femmes. Et il a voulu explorer aussi les journalistes qui font du fait divers.
Le traitement médiatique.
Le traitement médiatique et du magazine, en particulier le magazine Détective, qui existe pour vrai.
Ah oui? Dépendant de notre Allopolis.
C'est ce que j'allais dire, d'une certaine façon. Et en fait, il y a un certain mépris par rapport à cette presse de faits divers.
Ouais,
et
ouais.
Il voulait un peu réhabiliter le travail de ces journalistes. Alors, on va suivre le père et fille, donc Samuel, interprété par Samy Bouajila, et sa fille Ava, qui est stagiaire, comme on l'a compris dans la bande-annonce, dans ce journal, Mallory Wanek. Et les deux vont enquêter sur un meurtre d'une jeune fille. Et c'est adapté aussi, en fait, libre adaptation d'un fait divers qui s'est passé en 2002.
Pour vrai.
Moi, je trouve que, d'abord, la première partie du film est un peu confuse. Parce qu'on va suivre plusieurs enquêtes en même temps, avec plusieurs journalistes. Et on peut voir aussi qu'ils ont certaines pratiques pas toujours légales, on pourrait dire. Bon, alors qui sont les rapaces dans le titre du film? Alors, ça peut être eux et elles, parce que des pratiques un peu illégales pour aller au bout des enquêtes.
Faire avancer l'enquête.
Faire avancer l'enquête et vendre le magazine. Mais c'est aussi les hommes qui attaquent les femmes. Donc, on parle de féminicide et on parle aussi de l'essor du masculinisme. Alors, la deuxième partie est centrée sur le rapport entre père et fille qui veulent aussi, d'une certaine façon, se réconcilier, se rapprocher beaucoup.
Mieux se comprendre.
Oui, mieux se comprendre. Alors qu'ils vont vraiment aller au fond de cette enquête. Et le thriller prend son essor, prend son envol.
Et il y a moins de confusion à ce moment-là.
Il y a moins de confusion et le rythme est très rapide. Il y a une scène en particulier, la scène du restaurant. J'ai lu qu'il y avait au moins eu 4 jours de tournage seulement pour cette scène.
Parce que
le découpage est très, très méticuleux. Et là, tout se passe dans les regards. Et cette scène-là où le père et fille sont un peu traqués dans cet espace... La musique aussi, je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est pas une musique qui va appuyer les émotions. Et ça, c'est intéressant dans ce type de film.
Oui, parce que ça devient racoleur quelquefois quand la musique prend trop de place pour nous dire quoi penser, quoi ressentir.
Oui. Et on parle aussi de Jean-Pierre Darroussin. Je pense que plusieurs personnes le connaissent. Il a un petit rôle secondaire, mais il incarne un vieux routier du journalisme. Alors,
qu'on a vu, entre autres, je me souviens de son rôle dans Un air de famille. Hein?
Oui. Alors, c'est un film qui a...
Qui vaut le détour?
Qui vaut le détour. Oui,
vous n'avez pas l'air convaincu.
Mais si je compare avec La nuit du 12, dont j'avais parlé il y a quelques temps, ce film-là, c'était sur la perspective des policiers face à une enquête.
Dossier 137.
Non, c'est La nuit du 12.
OK, c'était le même réalisateur, me semble.
Non, je ne pourrais pas vous dire. La nuit du 12, c'est aussi c'est de Dominique Moll.
Ah oui. La nuit du 12 que vous aviez préféré.
Que j'avais préféré.
OK. Puis...
Mais c'est intéressant de voir l'aspect journalistique aussi, comment le traitement des journalistes, comment ils traitent une enquête. Alors, et c'est présenté.
Dominique Moll a aussi fait Dossier 137, c'est son plus récent film, une enquête dont vous avez parlé.
Oui.
Et on avait parlé ensemble parce que je l'avais vu, j'ai adoré, l'actrice est formidable.
Oui, donc ces deux films-là étaient des films d'enquête, tout comme Rapace.
Ouais. Et selon vous, les films de Dominique Moll sont plus réussis.
Plus réussis, en effet. Okay. Mais alors, c'est pas, on passe pas un mauvais moment non plus, là.
Sur 10, comme dans la presse, vous donneriez combien?
5.
Oh, OK.
5.
Ouais. C'est pas beaucoup.
C'est présenté au Bout Cinéma Beaubien.
D'accord. On passe maintenant, Louise Véronique, à un film québécois de Yann Giroux.
Oui.
Et qui s'intitule « Mon fils ne revient que 7 jours ».
A disparu. Il s'est peut-être perdu.
T'aurais-tu voir ça, ma?
Ouais, on a besoin d'un contexte, là. Mon fils, c'est pas mon fils ne revient, c'est mon fils ne revint que 7 jours. Ça change tout, là. Mais c'est un titre quand même intriguant.
Oui, en fait, c'est le titre du livre de David Clairson. Donc, c'est adapté de ce roman. Alors oui, c'est un film d'une certaine étrangeté, une extrême lenteur, comme on a pu même l'entendre dans la bande-annonce.
On le ressent, oui.
On le ressent. C'est une parenthèse entre une mère et son fils, une parenthèse d'une semaine qu'ils vont vivre ensemble. La mère interprétée, parce qu'en fait, il n'y a que deux personnages dans ce film, hein? Que deux, quand même. Alors, Marie-France Marcotte...
C'est rare, un film à deux personnages, là.
Marie-France Marcotte, qui interprète Suzanne, et Francis Lahaie, qui interprète Mathieu, son fils. Son fils qui...
Ça se passe où? Et on est en quelle année?
On pourrait être actuellement.
Aujourd'hui,
oui, en Mauricie, dans une forêt, parce qu'elle habite... Suzanne habite au cœur d'une forêt, très isolée. C'est une spécialiste des champignons. Et tout à coup, son fils va arriver. Son fils qui a parcouru les États-Unis en état d'errance. Donc, on sait qu'il y a... On peut très bien voir qu'il a un problème de santé mentale. Alors, il est un sans-abri qui a parcouru plusieurs États aux États-Unis. Et alors, il revient et c'est un peu le rapprochement entre les deux. C'est l'impuissance de la mère face à l'état de son fils. C'est son amour inconditionné également par rapport à lui. Et lui veut absolument retourner dans la tourbière. Une tourbière qui est un lieu de souvenirs. Alors, le film est très contemplatif par rapport à la nature. On entre dans cette tourbière qui est à la fois mystérieuse et menaçante.
Il doit y avoir beaucoup de champignons aussi?
Il y a beaucoup de champignons. Il y a toute une gamme de champignons qu'on peut voir dans ce film.
Est-ce qu'on se sent en danger?
Non, on ne pourrait pas dire.
Parce qu'il y a des champignons qui peuvent être vénéneux.
Oui, en effet. Le film n'explique pas tout. Et c'est difficile de connecter pour moi avec les personnages parce que le jeu de Marie-France Marcotte est très introspectif, tandis que le jeu de Francis Lahaie est très physique parce que c'est aussi un danseur dans la vie. Et il y a très peu de dialogue, très, très peu.
Il ne se parle pas beaucoup?
Pas beaucoup, non, parce que le fils ne parle pas. Il est très, très, très introverti, il ne parle pas, il est dans sa bulle. Et les plans aussi, la réalisation fait que c'est beaucoup des plans larges et fixes. Alors, c'est un peu comme des photographies d'une certaine façon. Mais la beauté de cette tourbière, quand même, parce qu'on va rarement dans une tourbière, dans ce milieu humide, on entend les wawarons, on voit les insectes. Mais c'est un lieu qui est presque magique d'une certaine façon. Alors, c'est un film très contemplatif, très lent et... Bon, qui parle d'un rapprochement entre mère et fils, de la santé mentale, les problèmes de santé mentale.
Est-ce qu'on finit par s'ennuyer?
Ben, c'est un peu déroutant pour ceux qui ne sont pas habitués à des films aussi lents.
Lents.
Ouais. Moi, j'ai
mais quand été, c'est j'ai, justifié.
Oui, mais moi, j'ai été émerveillée par la beauté de la
nature.
Direction photo.
Ah oui?
Oui. Mais... Concernant le jeu des deux, ben, vous savez, deux personnages seulement pendant toute la durée d'un film.
Mm-hmm.
Et,
est-ce qu'on croit à leur relation mère-fils?
Oui, on y croit, mais comment dire, moi, j'ai eu du mal à rentrer dans l'émotion de la mère. Parce que c'est souvent des plans éloignés aussi. Puis, elle n'est pas très expressive non plus. Donc, on ne peut pas trop comprendre... ce qui se passe dans leur tête.
Ça, s'identifier à elle, puis avoir de la compassion.
Ouais.
Non,
ouais.
ça se passe pas.
Ouais. Ouais.
Je me demandais ce qu'avait fait Yann Giroux avant « Mon fils ne revint que 7 jours » à tous ceux qui ne me lisent pas.
Oui. Puis, c'était avec Martin Dubreuil.
Oui, je me souviens de ce film-là en 2018, puis il y en a eu d'autres également.
Oui, oui, oui. Mais c'est pas évident d'adapter un livre qui est très, très descriptif à l'écran.
Oui. Ça marche à moitié ici, là.
Ben, direction photo extraordinaire, quand même.
Mm-hmm. Mais vous avez quelques bémols.
J'ai quelques bémols. Et c'est présenté à la Cinémathèque. Et le 2 mai, il y aura une projection suivie d'une discussion.
Ah oui, avec qui?
Je ne pourrais pas vous dire, mais...
Bon. Le réalisateur et peut-être les acteurs ou peut-être toute cette équipe.
Peut-être toute cette équipe est présentée également au Beaubien puis au cinéma public.
Bon, alors de la lenteur, on passe à l'action avec Herbie.
Je regarde dans un petit trou, là, puis je vois tous les chars de course. Wow! Oh my God! C'est dread ce jour-là que j'ai vu. Qu'est-ce que je voulais faire, tu sais? C'était inatteignable.
Ça coûtait une fortune de rouler ça, là.
We've invested everything we have for this season. What?
What? Starting to look like a race car, baby.
Hell yeah.
Push it, push it.
Go.
I love you.
I love you, too. New car, new engine, old friends. Yeah. Finally being where we wanted to be, but with a 20-year gap. There's like a few episodes that make me like change, you know?
How much you have to fucking suffer? Tu veux-tu devenir un pilote de course ou tu veux finir ta vie en dedans?
She woke up all those dreams again inside of me.
Ouh!
Autre atmosphère!
Complètement! C'est Herbie, il faut dire Herbie, non Herbie, parce que c'est un personnage anglophone.
Oui.
De Antoine Bergevin-Richer, que je ne connais pas du tout.
C'est son premier long-métrage.
OK.
Oui.
Tout s'explique. Film qui prend l'affiche le 1er mai, qu'est-ce que ça raconte? Là, on est dans des courses automobiles?
Oui, la course du circuit NASCAR.
Et
Herbie, c'est le personnage principal. Un être flamboyant, drôle, hypersensible, fantasque aussi. Beaucoup de qualificatifs qu'on pourrait lui attribuer. Et c'est son rêve, ça a toujours été son rêve de participer comme pilote dans une course.
De NASCAR.
Mais il a 53 ans. Et
Tellement vieux.
Ben, enfin, pour être pilote.
Sais,
hein,
oui.
Mais ça n'a pas été un enfant de cœur non plus dans sa vie. Alors, plusieurs
il
problèmes.
Il a passé.
Passé très turbulent, on pourrait dire, avec ses jours en prison, en fait, dépendance au...
ça fait un beau personnage.
Ça fait un très beau personnage. Il a beaucoup de vécu. Mais il s'est toujours intéressé à la course. Ça a toujours été son rêve. Il n'a jamais lâché. Il a été mécanicien pour des pilotes expérimentés et fortunés. Parce que lui, il n'a pas de moyens. Alors, comment il fait pour devenir un pilote? Il s'entoure de ses amis, de ses potes qui sont du même âge que lui. Alors, on rafistole une voiture et on suit Herbie dans les préparatifs d'une course à Toronto et ça va culminer avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, c'est tout un personnage parce qu'à la fois, il a beaucoup de bagou, il témoigne et il témoigne avec aussi sa vulnérabilité et aussi son équipe. Donc, c'est aussi un film sur l'amitié masculine, les trahisons aussi de l'amitié, sur sa conjointe Anna, qui est une force de la nature, qui est son pilier, son socle.
Qui sont les acteurs?
Ben, c'est pas des acteurs, parce que c'est un documentaire.
Ah, c'est un documentaire!
Oui!
OK, donc, ça m'a échappé!
C'est vrai de vrai!
Herbie existe pour vrai!
Il existe pour vrai!
Ah, d'accord!
Oui, 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 mais c'est ça qui fait toute la force du film, parce que c'est presque un personnage de fiction, avec tout le passé qu'il a. Et c'est très beau de le voir, qu'il a cru à son rêve et il s'est entouré de toute son équipe d'amis. Et c'est malgré le peu de moyens, on peut réaliser son rêve. Et c'est ça qu'il montre.
Je pense que ça a été votre coup de cœur, hein, parmi les
trois
films.
Ça a été mon coup de cœur parce que moi, je ne suis pas une fan de course, là, non?
Non, mais en même temps, c'est pas votre profil.
Non, mais en même temps, on entre dans les coulisses de ce type de course.
Le rythme est bon.
Le rythme est bon.
Vous êtes fait prendre par cette histoire.
Oui, 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 parce que c'est un fin équilibre entre l'action des courses, les préparatifs et aussi les témoignages.
Donc, un premier film prometteur là, pour Antoine Bergevin-Richer, documentaire, on le rappelle.
Oui, 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 oui. Je dirais qu'on entre dans cet univers-là avec, et on en ressort avec plaisir et mon Dieu, qu'on est content. Pour ce fameux Herbie.
Oui, il ne faut pas tout dire.
Non.
Mais on croit deviner.
Oui, on croit deviner.
Qui va aller au bout de ses rêves.
Exactement.
Merci beaucoup, Louise Véronique. On se retrouve au mois de mai.
Oui.
Hein?
Oui.
Ça va vite. Hein?
Ça va vite.
Une fois par mois, elle vient nous parler cinéma et ça nous fait toujours plaisir.
Merci et à bientôt.